Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de NineNarTree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre publié en 2023, « Reprise d'entreprise et effet de levier » est un guide pratique consacré à une articulation particulière entre reprise de PME et investissement immobilier. Pedro da Fonseca y présente une stratégie visant à acquérir une activité existante avec un apport personnel limité, puis à utiliser sa capacité de génération de revenus pour construire une opération immobilière. Le schéma exposé part de la reprise de la société, passe par le financement des locaux occupés par celle-ci, puis envisage la cession ultérieure de l'exploitation tout en conservant l'immeuble et ses loyers. Le livre se situe donc au croisement de la transmission d'entreprise, du financement et de la constitution de patrimoine. Son objectif déclaré est de rendre cette logique accessible à des repreneurs débutants comme à des investisseurs déjà actifs mais freinés par le manque de trésorerie. Il ne propose pas une théorie générale de l'immobilier locatif, il défend un enchaînement précis fondé sur les flux économiques d'une entreprise reprise et sur un usage discipliné de l'effet de levier. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la reprise d'une activité existante comme point de départ patrimonial. Le point de départ du livre n'est pas l'achat direct d'un bien locatif, mais la reprise d'une entreprise déjà en fonctionnement. Cette orientation le distingue des guides immobiliers classiques, qui commencent généralement par la recherche d'un logement, le calcul d'un rendement ou la négociation d'un crédit personnel. Ici, l'activité économique est envisagée comme un actif capable de produire des flux de trésorerie, une clientèle, une organisation et parfois une présence durable dans des locaux déterminés. Pour l'auteur, reprendre peut présenter un profil différent de la création, car le repreneur analyse une exploitation ayant déjà une histoire opérationnelle plutôt que de bâtir entièrement son marché. Cette idée ne supprime nullement le risque que les résultats passés ne garantissent ni le maintien des clients, ni la qualité des équipes, ni la solidité des marges. Elle impose au contraire une lecture rigoureuse des comptes, des contrats, de la dépendance envers le dirigeant sortant et des besoins de financement. Le livre attire ainsi l'attention sur une logique souvent négligée. Une entreprise peut être à la fois un projet professionnel et le premier maillon d'une stratégie patrimoniale. La pertinence de cette logique dépend toutefois de la qualité réelle de l'entreprise ciblée, bien davantage que de la seule promesse d'un montage financier. Deuxièmement, un enchaînement en quatre temps entre exploitation, crédit et immobilier. La méthode mise en avant repose sur une séquence identifiable. D'abord, le repreneur prend le contrôle d'une entreprise sans faire du crédit bancaire personnel la base annoncée de l'opération. Ensuite, les revenus et la stabilité de l'activité sont censés renforcer la capacité à obtenir un financement bancaire. Ce financement sert à acheter les murs professionnels utilisés par l'entreprise. Enfin, lorsque l'exploitation est revendue, l'immeuble est conservé afin de procurer des loyers. Cette chronologie est centrale car elle sépare deux actifs dont les horizons ne sont pas les mêmes, le fonds ou les titres de la société qui peuvent être cédés et les murs qui peuvent rester dans le patrimoine. Le raisonnement financier est cohérent sur le principe qu'une activité solvable peut soutenir une demande de financement et un bail peut créer un revenu immobilier, mais chaque étape dépend de conditions précises. La banque examinera notamment la rentabilité, l'endettement, les garanties, la valeur du bien, la qualité du locataire. De même, une vente de l'entreprise ne vaut pas automatiquement au prix espéré. Le livre doit donc être lu comme un cadre de montage et non comme une succession automatique de résultats. Son intérêt réside dans la mise en relation structurée de décisions souvent traitées séparément. Troisièmement, les murs professionnels comme actifs distincts dès l'exploitation. La conservation des locaux après la cession de l'entreprise constitue la finalité patrimoniale la plus spécifique de l'ouvrage. Dans ce modèle, le repreneur cherche à dissocier progressivement le propriétaire de l'immeuble du propriétaire de l'exploitation. Tant qu'il dirige la société, celle-ci occupe les murs et verse un loyer à la structure propriétaire. Lors de la cession, l'acquéreur de l'activité peut devenir locataire, sous réserve que le bail, le prix et les conditions de la transaction soient compatibles avec la poursuite de l'activité. Cette séparation peut permettre de transformer une valeur créée dans l'entreprise en revenu locatif potentiel. Elle comporte cependant des exigences concrètes. Le local doit être adapté à un usage pérenne, situé sur un marché où il peut conserver une utilité et loué à des conditions soutenables pour l'exploitant. Un loyer excessif peut fragiliser l'entreprise et réduire son attractivité lors de la revente. À l'inverse, un local très spécialisé peut devenir difficile à relouer si le locataire part. Le livre met donc en lumière un immobilier professionnel moins présent dans les récits habituels sur la liberté financière. Sa logique dépend moins de la hausse supposée des prix que de la relation entre un outil de travail, un bail commercial et la capacité durable d'un occupant à payer son loyer. Quatrièmement, levier financier potentiel de rendement et discipline de risque. Le terme effet de levier renvoie à l'usage de ressources externes ou de flux produits par un actif, pour contrôler des actifs plus importants que ne le permettrait le seul capital disponible. Dans la perspective du livre, le levier ne se limite pas à emprunter pour acheter un bien, il repose sur l'enchaînement entre la reprise d'une entreprise, sa génération de revenus, puis le financement des murs. Cette approche peut réduire le besoin d'apport initial, mais elle ne rend pas les actifs gratuits et ne supprime pas les obligations envers les vendeurs, financeurs ou partenaires. Le rendement potentiel augmente lorsque les actifs financés produisent durablement davantage que leur coût global. En revanche, le risque augmente si les résultats de l'entreprise baissent, si les charges progressent, si un client majeur disparaît ou si le local ne peut plus générer le loyer attendu. Une analyse prudente doit intégrer le besoin en fonds de roulement, les échéances de dette, les travaux, les impôts, les assurances et des scénarios de baissée d'activité. Le mérite du thème traité est de rappeler que le financement relève d'une architecture globale plutôt que d'une simple recherche de crédit. La limite est tout aussi importante, un montage complexe exige des conseils juridiques, comptables et financiers adaptés, ainsi qu'une capacité de gestion opérationnelle réelle. En dernier lieu, une réponse au contexte de transmission des petites entreprises. Le livre inscrit sa proposition dans un contexte où de nombreuses petites entreprises doivent être transmises, notamment lorsque leurs dirigeants cessent leur activité. Cette situation crée des occasions de reprise, mais elle ne transforme pas toute entreprise à vendre en bonne opportunité. L'acheteur doit distinguer une activité saine mais sans successeur d'une activité affaiblie par une rentabilité insuffisante, un retard d'investissement, une dépendance commerciale ou un marché en déclin. L'auteur s'adresse à des personnes qui souhaitent devenir repreneurs sans forcément posséder une expertise initiale du secteur visé. Cette ouverture doit être comprise avec nuance. Une connaissance préalable peut être acquise par audit, accompagnement et immersion, mais elle ne peut être remplacée par un montage financier. Le futur dirigeant doit comprendre les moteurs de marge, la réglementation, les compétences clés et les risques propres à l'activité. La contribution pratique du livre consiste à déplacer le regard au lieu de limiter la reprise à l'achat d'un emploi de dirigeant. Il invite à examiner son potentiel de création d'actifs immobiliers. Cette vision peut aider un lecteur à formuler de meilleures questions lors d'une recherche de cible. Les locaux sont-ils stratégiques? Le bail est-il transférable? Le niveau de loyer est-il équilibré et l'entreprise resterait-elle viable après une opération sur les murs? Ces questions relient directement stratégie de reprise et qualité patrimoniale. En conclusion, reprise d'entreprise et effet de levier s'adressent principalement aux personnes attirées par la transmission de petites entreprises et désireuses de comprendre comment une activité opérationnelle peut servir de base à une stratégie immobilière. Il peut aussi intéresser des investisseurs immobiliers qui connaissent surtout le résidentiel et veulent examiner le rôle des murs professionnels ainsi que des dirigeants qui réfléchissent à la détention de leurs locaux. Le bénéfice pratique du livre tient à la clarté de son enchaînement, reprendre une entreprise, consolider sa capacité financière, acheter les murs, puis dissocier à terme l'exploitation de l'immobilier. Cette grille aide à considérer ensemble des décisions de reprise, de financement, de bail et de cession qui sont souvent étudiées séparément. Son positionnement est plus spécialisé que celui des manuels généraux sur la création d'entreprises ou sur l'investissement locatif, là où ces derniers se concentrent soit sur le lancement d'une activité, soit sur l'achat d'un bien. Pedro da Fonseca met l'accent sur la conversion progressive d'une réussite entrepreneuriale en revenu immobilier potentiel. Cette spécificité constitue son principal facteur de différenciation. Le lecteur doit néanmoins conserver une approche critique. L'absence d'apport important ne dispense ni de l'audit, ni de la négociation, ni de la gestion des risques. L'ouvrage sera surtout utile comme introduction stratégique et comme source de questions à approfondir avec des professionnels du chiffre, du droit et du financement avant toute décision. Si vous souhaitez soutenir Pedro da Fonseca, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.